Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle, celle qui s'est incarnée en Jésus-Christ. C'est que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, à vous en particulier. C'est un fruit de la liberté de Dieu de nous aimer et de nous vouloir ainsi tout le bien possible. C'est pourquoi, de génération en génération, notre espérance est en Dieu. Et c'est vers lui que nous portons notre louange, notre reconnaissance. Ce que je vous propose de faire ensemble avec le chant du psaume 24, le numéro 14 dans notre cantique, les strophes 1, 2 et 4 du psaume 24. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander et son pardon et son aide pour avancer, pour progresser. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Éphrem, au IVe siècle. Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi. Conduis-moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Je suis plein de fautes sans nombre et je cherche refuge auprès de toi. Comme à Pierre, tends-moi la main. Je prie comme le Fils, comme le fit le Père de l'enfant malade, pour que tu sauves son enfant. Tu es source de vie et de futur, abreuve mon âme altérée, aiguillonne mon cœur endurci, arrache-moi des larmes de vrai repentir. Toi qui es la vraie lumière, qui éclaire toute personne, illumine-moi, ouvre les yeux de mon cœur et affermis-le dans l'amour de ton amour. Que je t'aime, toi seul, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence. Et avec les paroles de ce psaume de la Bible, je vous propose de nous ouvrir au pardon de Dieu, afin de vivre de sa tendresse envers nous. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais tristesse et angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible. Il m'a sauvé. Retrouve du repos, ô mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, c'est en présence de l'Éternel que je marche sur la terre des vivants. Je vous propose de prendre ce psaume 116 dont je viens de vous lire un extrait. Donc c'est le numéro 57 dans notre cantique et d'en chanter les quatre premières strophes « J'aime mon Dieu car son puissant secours ». Je vous propose pour ce dimanche d'aller ouvrir notre Bible dans le Premier Testament, dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 7. Alors c'est vrai que l'Ancien Testament n'est pas toujours facile à lire avec des guerres, des massacres. Alors je vous propose de le relire à la lumière, bien sûr, de l'Évangile. Il s'était passé bien des jours depuis le moment où l'arche avait été installée à Kiriath Yéharim, 20 années. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. » « Décidez-vous pour l'Éternel et servez-le, lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit alors, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Et Samuel gouverna les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les chefs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent, et ils eurent peur devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Betzkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, ainsi que leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël durant toute sa vie. Il allait chaque année aller faire un circuit par Bethel, par Gilgal, puis par Mitzpah, et il gouvernait Israël en chacun de ces endroits. Puis, il retournait à Rama, où était sa maison, et c'est là qu'il gouvernait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus, montant à Jérusalem pour manifester vraiment sa puissance comme Messie, comme Christ, donc c'est raconté entre les rameaux et Pâques, Jésus ne s'est pas dirigé vers le palais de l'envahisseur romain comme il était attendu par la foule. Il s'est avancé vers le temple pour nous appeler à purifier notre relation à Dieu. Et c'est ainsi donc qu'il entend accomplir les Écritures. Et cela propose une façon de lire ou de relire la Bible, de l'interpréter. En effet, la Bible hébraïque est pleine de batailles, soit qu'Israël soit attaqué par divers peuplades, comme les Philistins par exemple, soit qu'Israël lui-même attaque d'autres peuples, souvent au nom de l'Éternel pour prendre leur terre, par exemple, ou leur richesse. Le sens littéral de ces combats est souvent très choquant. Et c'est pourquoi bien des personnes commençant à lire la Bible avancent, au début c'est encore assez intéressant, rigolo si je puis dire, mais au bout de quelque temps ils butent sur ces horreurs et referment le livre. Bien dommage. Parce que la façon d'être de Jésus propose de lire ces combats bibliques non au sens guerrier, au sens premier, au sens littéral, mais au sens spirituel. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, cela correspond à mon avis à l'intention même de ces écritures. Parce que la Bible ne parle pas du passé ou elle n'évoque le passé que pour parler du présent, de la vie de son lecteur. La Bible parle de nous, en fait. Elle présente un passé, d'ailleurs, qu'elle romance assez souvent afin de porter le message spirituel que l'auteur a à cœur de transmettre. C'est pour ça qu'il a pris la peine de prendre un calame, un stylet, un pinceau ou une plume, ou maintenant peut-être un ordinateur et une imprimante. De toute façon, il est clair que la lecture au sens matériel ne convient pas à ces textes. Elle est même trompeuse, donnant de faux espoirs, comme si face à des hommes méchants, bien armés, entraînés, déterminés à faire le mal, la prière fervente pouvait être d'une quelconque efficacité. Bien sûr que ça ne marche pas. La vie de Jésus le montre d'ailleurs tragiquement, malgré sa prière à Gethsémané, malgré sa prière ardente régulièrement tout au long de sa vie, il a été arrêté par les soldats, il a été trahi par les siens, il a été jugé contre toute justice, torturé et exécuté sur le champ. Le salut apporté par le Christ n'est pourtant pas sans rapport avec la paix, notre paix en ce monde, et la façon dont le Christ a vécu n'est pas sans rapport avec l'arrivée, la venue de la droiture et de la justice. Dieu a même tout à voir avec cela, bien sûr, mais il travaille en amont de cela, à la racine de la paix et de la justice. Il travaille à l'intérieur de la personne humaine et de l'humanité, non pas de l'extérieur comme il peut le faire par ailleurs sur l'univers. Jésus explique « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne. » Et là encore, il donne une clé d'interprétation de ces textes de l'Ancien Testament pour identifier nos vrais ennemis, qui ne sont pas le Philistin, qui ne sont pas le voisin qui met peut-être sa musique trop fort ou que sais-je. C'est sur ce plan-là, intérieur, qu'agit le Christ, celui de l'âme, ou plutôt celui de notre élan vital. Il agit sur la connexion profonde de notre humanité avec la source de la vie. Et c'est ce que propose, à mon avis, cette page du premier livre de Samuel. Samuel est présenté comme prophète, plus que comme juge. Il gouverne, effectivement, et la paix va régner avec l'aide de Dieu qui agit avec puissance, nous le voyons dans ce texte. Mais c'est pour nous qu'est écrit ce texte. C'est un témoignage, une prédication vieille de 3000 ans pour que la paix puisse régner dans notre vie. Alors le texte commence en disant que l'Arche d'Alliance a été installée au cœur même de la terre d'Israël pendant longtemps, très longtemps, 20 années, avant qu'enfin toute la maison d'Israël pousse des gémissements vers l'Éternel. Ce n'est pas trop tôt après 20 ans. L'Arche d'Alliance contenait pourtant des souvenirs d'anciennes actions de Dieu prodigieuses pour sauver son peuple de sa détresse en Égypte et de le faire cheminer vers la vie. Mais des souvenirs peuvent-ils changer une vie? C'est bien possible. C'est ce qui arrive finalement ici aux Israélites. Quand au lieu de se laisser battre et abattre par leurs ennemis extérieurs et intérieurs, les Hébreux se mettent à gémir vers l'Éternel. Ils ont alors fait le rapprochement avec les souvenirs anciens de l'action de Dieu qui était enfermée dans le coffre d'alliance. Ils ont fait le lien avec leur propre détresse. C'est ce qui arrive quand on passe de la conservation de la Bible dans sa bibliothèque, avec peut-être 20 ans de poussière qui se sont accumulées dessus, comme les Hébreux, et puis qu'on arrive à l'appropriation de ces textes anciens en une espérance pour notre situation présente, avec un soupir alors, qui peut nous venir, qui soit non pas un soupir sur soi-même pour soi-même, mais un soupir qui est une ouverture, une espérance vers l'Éternel, une ouverture à la source de l'être que la Bible désigne par ces lettres Yahvé, qui sont traduits ici par l'Éternel, mais qui veut dire en fait « je suis », qui est la source de l'être même. Suite à leur appropriation des témoignages des anciens redécouverts, le premier exaucement qui leur vient, c'est d'entendre ce que dit le prophète Samuel. En Christ, l'esprit n'est plus réservé à quelques prophètes, c'est-à-dire quelques professionnels qui sont particulièrement sensibles à ce que Dieu a à dire pour le transmettre à leurs contemporains. En Christ, c'est chacune et chacun d'entre nous qui devient un prophète, qui peut entendre ce que Dieu a à dire et se laisser éclairer. Donc chacun devient prophète et prophétesse, chacun peut vivre ce que représente Samuel dans ce texte pour tout le peuple. Le nom même de Samuel nous parle, il signifie « Dieu a entendu ». À écouter. Cette phrase, donc Samuel dit à toute la maison d'Israël, se traduit donc par « Dieu a écouté et il nous parle ». Il parle à notre être tout entier, à notre vie dans toutes ses dimensions. Et donc il y a là dans ces mots quelque chose qui nous est proposé comme une façon de nous ouvrir dans l'intimité, à la prière, à la lecture de ces histoires anciennes pour nous les réapproprier spirituellement. Le premier exaucement d'une lecture de la Bible pleine d'espérance en Dieu est de découvrir que Dieu entend nos gémissements, il entend notre prière articulée ou même non articulée comme un gémissement. Il entend le murmure de notre être qui est en manque de quelque chose de vital. Celui de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence, de notre vie tout entière qui a soif de lui, du Dieu vivant. Et déjà, les effets se font sentir. Un rassemblement de leur être peut s'opérer. Leur être qui était comme éparpillé, émietté, comme peuvent l'être nos existences en ce monde trépidant. Une unification de leurs priorités, de leur espérance, une simplification de leur vie peut-être, non pour la réduire, non pour l'étriquer, mais comme on aère une vigne, une plantation, une forêt, afin de l'assainir, afin que la lumière y pénètre, afin que la feuille puisse respirer, recevoir la lumière, s'étendre et porter du fruit. Les Philistins, comme le disait Jésus en parlant de nos ennemis, sont une figure de tout ce qui nous agresse, nous tire vers le bas, nous éparpille, de tout ce qui tue nos fruits qui sont à peine mûrs, de tout ce qui pille nos récoltes, nous affame, de tout ce qui nous viole, de ce qui nous tue. Et déjà, nous dit le texte, avec ce réveil des Israélites, déjà nos Philistins s'épouvantent et nous pouvons les terrasser, un peu, progressivement. Il est bon que la Bible parle ainsi au sens figuré, parlant de Philistins, de Baal, d'Astarté, car chacun, chacune a ses propres Philistins, ses propres fausses adorations. Et par l'écouter de soi et de Dieu, dans le secret de notre prière, ce souffle de salut nous rejoint. Alors, ça se termine sur une victoire sur les Philistins et sur l'annonce d'une grande paix avec les Amoréens dans tout le territoire d'Israël, enfin vécu dans la paix. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur l'annonce de cette victoire et de cette paix. Mais le prophète Samuel continue à agir. Et cela montre que ce processus partant de la souffrance jusqu'à la consolation, la paix, l'être abouti, la vie pleine, eh bien, c'est comme un programme sans cesse à travailler et à entretenir. Le texte poursuit en nous disant que chaque année, Samuel faisait comme un pèlerinage à travers des hauts lieux de mémoire, comme pour recharger ses batteries, batterie théologique, batterie spirituelle, batterie d'espérance, batterie de projets nouveaux, comme pour travailler dans le mode propre à chacun de ces lieux qu'il va revisiter. Et donc c'est un excellent conseil, tout simple et sage, bien concret, pour continuer à avancer et pour recharger nos batteries. Voilà ce que nous dit le texte dans les derniers mots de ce chapitre. Samuel allait ainsi chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Il gouvernait Israël dans chacun de ces lieux, puis il revenait à Rama où était sa maison, et là il gouvernait Israël et il bâtit un autel à l'Éternel. Donc les étapes de ce voyage font référence à des événements fondateurs de l'histoire du peuple hébreu. Chacun de ces lieux d'ailleurs a reçu son nom à cause de ce qui est arrivé à cet endroit-là, comme pour en garder la mémoire pour les générations futures et pour nous-mêmes, que nous puissions nous ouvrir à notre tour à cette source de salut et peut-être rayonner de fruits de cette histoire autour de nous. Il s'agit pour le prophète qui est en chacun de nous de recharger son écoute et son espérance pour aujourd'hui, espérance en Dieu, et une fois, pas pour hier, mais pour aujourd'hui et maintenant, dans nos circonstances. La première étape est donc Bethel, littéralement la maison de Dieu. Ce lieu a été nommé ainsi par Jacob, après cette célèbre vision de l'ange, dont parle d'ailleurs Jésus, avec les anges qui montent et qui descendent, et la présence de Dieu qui est au-dessus. Et Jacob dit, certainement l'Éternel était ici, en ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Et puis il dresse là une pierre, afin de rendre un culte à Dieu, de l'en remercier, de rendre louange à Dieu, et puis d'en témoigner pour les générations futures, pour nous. Samuel, bien sûr, connaissait l'histoire de Jacob par cœur. L'histoire de Jacob à Bethel, ça faisait partie du catéchisme de base. La première étape de son cheminement consiste à approfondir personnellement cette expérience de Jacob, celle d'une relation intime avec Dieu. Et comme ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'avoir cette relation intime avec Dieu, il est bon de passer par les pierres dressées par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Le Christ, comme je le disais au début de ce message, a ouvert les portes des cieux pour chacune et chacun d'entre nous. C'est la possibilité de faire monter à Dieu notre gémissement et qu'il nous entende et que sa présence nous parle. Nous sommes alors prêtres et prophètes. Nous sommes Jacob, nous sommes Samuel. La deuxième étape est Gilgal. Cet endroit est connu dans la Bible comme le lieu où les Hébreux entrent enfin dans la terre promise. C'est le premier pied qu'ils y mettent. Ils viennent de traverser miraculeusement le Jourdain à pied sec Jourdain infranchissable. Puis Josué construit un lieu de culte pour l'Éternel qu'il appelle Gilgal, la roue, faite de 12 pierres cueillies dans le fond du lit du Jourdain, qui était alors à sec, pour former une roue. Les 12 tribus d'Israël, chacune prenant une pierre et apportant leur part dans cette roue. Qu'est-ce que ça ajoute de passer par Gilgal après être passé par Bethel ? C'est que Bethel, ça évoque la tendresse de Dieu, sa présence au-dessus de nous et la possibilité de le prier et de l'entendre. Ça évoque la tendresse de Dieu qui nous accompagne, la possibilité d'être vis-à-vis de lui comme un ami qu'on peut aller voir en privé, qui nous entend, qui répond à notre demande et qui nous promet de nous accompagner fidèlement. Gilgal évoque, lui, la force de Dieu, les prodiges qu'il fait pour nous permettre d'avancer, de franchir l'infranchissable. La roue évoque le fait de pouvoir avancer malgré, de passer par-dessus les obstacles, les cailloux de la route, peut-être les fissures qui sont au milieu du chemin, peut-être à travers les fleuves et les déserts. Dieu n'est pas simplement une porte comme à Bethel, un contact. Il est aussi une roue. Il n'est pas seulement consolation, il est énergie, mouvement. Et puis aussi, à travers cette idée des 12 tribus qui sont là, ensemble, comme un corps, à Gilgal, je suis comme incorporé à un peuple. C'est ensemble que nous avançons dans la vie. Et j'ai ma pierre à y ajouter. Alors que Bethel était beaucoup plus individuel, ma relation avec un Dieu de tendresse. Et donc il est bon de remercier Dieu pour cela aussi et de prendre courage pour avancer ensemble. La troisième expérience, le troisième lieu de pèlerinage que nous invite à visiter Samuel pour recharger nos batteries, c'est Mitzpah. Ben, c'est le plus important puisque c'est là qu'il réunit tout Israël au début de cette histoire. Ce troisième lieu important, ça évoque le moment où Jacob fait alliance avec son beau-père. Il dresse un gros tas de pierres sur la frontière entre leurs deux territoires. Et la Genèse nous raconte que l'on appelle cet endroit Mitzpah parce que Laban dit à Jacob que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Mitzpah, littéralement, c'est la tour de garde. Et c'est Dieu qui est la vigie, qui veille sur nous, sur chacun de nous, pour voir de loin ce qui peut nous arriver. Il nous aide à voir clair sur l'ennemi insidieux, peut-être déjà infiltré en nous, et nous apprend à voir en avance, finalement, ce qui peut arriver de bon ou de mauvais. La prière n'est pas simplement un appel à Dieu, une écoute de Dieu, ce n'est pas simplement la force de Dieu, c'est ce qu'il nous apprend, c'est ce qu'il nous révèle vu de haut, la vraie valeur dans le temps. Samuel allait ainsi chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Il gouvernait Israël dans chacun de ces lieux, puis il revenait à Rama. Rama ne correspond à aucun des grands lieux de l'histoire d'Israël. Inconnu. Après ces trois premiers lieux, c'est un peu surprenant. C'est pourquoi le texte prend la peine de nous expliquer pourquoi est-ce que Samuel revient à Rama. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est là qu'il habite. C'est là qu'est sa vie. L'itinéraire de Samuel nous propose de quitter un instant notre monde pour recharger nos batteries théologiques, spirituelles, raviver notre regard de la foi. Puis il nous propose de revenir à nos affaires tout simplement transformées et que notre foi y incarne et produise ses fruits grâce à l'aide de Dieu. Très souvent, on voit la même chose dans l'Évangile. Les mages qui, ayant visité Jésus, retournent chez eux par un autre chemin. Ou bien ces personnes que Jésus, ayant rencontrées, délivrées, purifiées, enseignées, Jésus dit ensuite, ben, retourne dans ta vie, retourne là dont tu viens, là d'où tu viens. Il n'y avait pas de lieu de culte à Rama. Eh bien, Samuel, revenant de Bethel, Gilgal et Mispa, va y bâtir un autel. Maintenant, les choses ont changé pour lui et il a envie de célébrer l'Éternel au cœur de sa vie quotidienne, par son culte, sa prière personnelle, mais aussi par une activité gouvernant Israël, c'est-à-dire produisant des fruits très concrets dans sa vie. Mais finalement, sa prière devient moins religieuse, plus intime, plus personnelle dans cette prière chez lui, dans sa maison. Et j'allais dire le culte, la lecture de la Bible, les sacrements, c'est au service de cela, d'une vie transformée et puis d'une religion toute personnelle et intime. Mais on peut remarquer que tout au long de son itinéraire spirituel, de son pèlerinage à travers de ces trois lieux, Samuel prend le temps de gouverner Israël. C'est-à-dire chacun de ces lieux apporte ses fruits propres, finalement, dans notre être, et puis aussi peut-être dans notre façon d'agir et de témoigner dans ce monde auprès de ceux qui nous sont chers. Porter des fruits comme si on était à Bethel, c'est être à notre mesure comme une pierre dressée, comme cette pierre dressée par Jacob, le signe d'une présence de Dieu, un témoignage de cette présence de Dieu pour un autre. Ne pas finalement se prendre pour Dieu par rapport à l'autre, mais dire à l'autre que Dieu est au-dessus de lui et que les anges peuvent descendre et monter au-dessus de lui. Porter des fruits comme si on était à Gilgal, c'est vivre cette promesse de Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est peut-être arriver à faire équipe avec une, deux personnes pour être deux ou trois, et pour avoir un projet de franchissement par la foi qui aurait été impossible autrement. Dans cette confiance que Dieu ouvrira des passages inconnus. Porter des fruits comme si on était à Mitzpah, c'est compter sur Dieu pour nous faire voir autrement le temps qui passe et la vie. Le voir de haut, grâce à Dieu, dans la confiance sur lui qui veille sur nous. Et porter des fruits à Rama, ça évoque peut-être un service beaucoup plus prosaïque. C'est ce qui s'incarne dans notre vie quotidienne pour consoler, pour soigner, pour nourrir, pour enseigner, pour ressusciter parfois, pour faire la paix. Et puis faire place à Dieu dans notre louange. Que l'Éternel nous bénisse ainsi et qu'il bénisse par vous ceux qu'il vous confie. Amen.
Thank you.
Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour ce monde que tu fais si beau et que tu gardes dans l'espérance qu'il progresse encore, qu'il devienne plus fraternel et de plus en plus en communion avec toi. Béni sois-tu pour Jésus-Christ ton Fils qui est né de notre chair, qui a partagé notre vie, qui a transformé notre mort et nous a fait partager sa vie, la vie éternelle. Béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes à vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. Béni sois-tu pour le pain et le vin de ce repas, signe de tout ce que tu nous donnes en Christ, afin que, jour après jour, nous soyons de plus en plus en communion avec toi, unis dans un même corps, le corps du Christ dont chacun de nous est un membre unique. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Voici le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples selon Matthieu, qui y était lui-même. C'est au chapitre 26 de son évangile. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Nous prions Dieu. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veuille par l'action de ton Saint-Esprit nous donner communion avec les paroles et la vie de ton Fils Jésus-Christ. Et comme la nourriture fortifie le corps, comme le vin réjouit l'esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et que ce vin nous donne la joie que tu veux pour chacune et chacun de nous. Que ce repas nous fasse prendre part d'une belle façon unique, comme membre de ce corps dont le Christ est la tête, vivant grâce à toi notre vocation personnelle, d'une belle façon, en lien avec les autres membres de ce corps, trouvant notre vocation unique. Et c'est ainsi que nous osons te prier, comme le Christ nous l'a enseigné, toi, Père et Mère que nous avons dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 279, « Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie », d'en chanter les deux premières strophes. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut participer à ce repas, prendre le pain, boire dans la coupe le vin ou le jus de raisin, en signe de son désir de se nourrir de tout ce que Dieu nous donne en Christ. Venez, nous dit Jésus-Christ, car tout est prêt. Je vous propose de vous mettre en rond autour de cette table pour partager le repas du Seigneur. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacune et chacun d'entre nous. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. C'est pourquoi nous bénirons l'Éternel tant que nous vivrons. Nous célébrerons notre Dieu tous ensemble tant que nous existerons. Amen. Allez dans la joie de notre Seigneur ressuscité. Dimanche prochain, 11 août, il y a un culte donc à 10h30 au temple de Plainpalais avec Marie Sénèque. Moi-même, je serai à Saint-Pierre à 10h et il y a ici à 20h30 un culte à la chapelle de Champel, comme chaque dimanche soir. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que c'est une façon de participer à ce témoignage de l'Église qui, bien sûr, ne peut exister que par le soutien de chacune et de chacun, c'est notre Église. Et pendant ce temps d'offrande, je vous propose de prendre le numéro 45 dans notre cantique, le psaume 92. Certes, c'est chose belle de louer le Seigneur, dont je vous propose de chanter les deux premières strophes. Alors, à la sortie, ceux qui le désirent peuvent prendre le texte de la prédication que je vous ai proposé et vous en trouverez aussi donc celle des dimanches précédents en audio, vidéo et texte. Vous les trouverez par le site de la région, rive gauche. Donc. Et maintenant, vous pouvez recevoir chacune et chacun, en particulier la bénédiction de Dieu qui est donnée sur votre existence tout entière et sur ceux qui vous sont chers. L'Éternel te bénit et t'accompagne fidèlement jour après jour. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Amen.